Le bénéfice du doute avec Pauline Peretz, une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission du bénéfice du doute. Nous allons discuter aujourd'hui d'un film qui date de 2015, Le Fils de Saul, et la question de la représentation des Sonderkommando au cinéma. Alors ce film, j'ai souhaité qu'on en reparle parce que bien qu'il date de 2015, il a été à nouveau question de son intrigue et de sa construction dans un numéro spécial de la revue Mémoire en jeu de décembre 2016, et ça a été l'occasion de relancer les débats sur ce film. Débats à la fois esthétiques, mais aussi débats sur la construction de cette intrigue. Et j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec Judith Lioncamp, qui a été mon invitée il y a 3 semaines et qui a eu la gentillesse d'accepter de revenir aujourd'hui. Donc Judith Lioncamp est historienne des usages de la littérature. Elle travaille en particulier sur les témoignages, la littérature des témoignages de la Shoah. Et c'est depuis ce point de vue que je propose qu'on discute avec elle de ce premier long métrage de fiction, donc du réalisateur hongrois Laszlo Németh. Alors je vais peut-être commencer par résumer rapidement l'intrigue du film. Je précise qu'il s'agit d'un film de fiction, même si il a un ancrage historique très fort. On se trouve donc dans ce film au cœur du processus d'extermination, au plus près des chambres à gaz, puisqu'on suit le travail des Sonderkommando d'Auschwitz, donc ces brigades de prisonniers juifs qui sont chargés de nettoyer les chambres à gaz après le gazage des juifs et également de l'incinération des corps. Donc brigade qui vit isolée du reste du camp et qui a un traitement différent du reste des détenus. Alors dans ce film, on suit le personnage principal qui s'appelle Saul, qui est pris d'une obsession le jour où il voit dans la chambre à gaz, dans une des chambres à gaz, un jeune homme encore en vie après le gazage, et jeune homme qui va être achevé par un SS, son corps va être mis de côté pour autopsie, et l'obsession de Saul à partir de ce moment-là, ça va être de dérober le corps au médecin pour éviter l'autopsie et pour pouvoir enterrer ce corps de jeune enfant et lui donner les sacrements qu'il estime nécessaires pour que sa mort soit une mort humaine, pour dérober son corps à la masse de cendres indistincte à laquelle est destiné l'ensemble des corps passés par les chambres à gaz en temps normal. Alors ce film, il a été jusqu'à présent unanimement salué par la critique. Je rappelle qu'il a reçu le Grand Prix à Cannes en 2015, qu'il a été distingué aussi comme le meilleur film en langue étrangère aux Oscars. Et puis, il a reçu, on peut dire, l'onction de Claude Lanzmann, qui avait pourtant dit à de multiples reprises qu'il n'y avait pas de représentation possible de la Shoah, et a fortiori pas de représentation possible des chambres d'extermination. Georges Didier Huberman, en France toujours, a aussi salué l'œuvre, et il a publié une lettre au réalisateur sous le titre « Sortir du noir » aux éditions de Minuit, également en 2015. Et pourtant, presque 2 ans après la sortie du film, ce film continue à faire parler de lui sous le mode de la discussion critique. Et Judith Lioncamp, vous êtes critique à l'égard de ce film, et vous dites que ce film peut inquiéter. Alors on va voir dans la discussion pourquoi il peut inquiéter. Je pense qu'il y a au moins 2 angles possibles dans la discussion, à la fois la question de la représentation et celle de l'intrigue. Alors commençons peut-être, si vous le voulez bien, Judith Lioncamp, par la question de la représentation des chambres à gaz dans ce film. Donc, jusque-là, on était très influencé par Lanzmann. On se disait qu'il était impossible d'entrer dans ce lieu que sont les chambres à gaz avec une caméra. Je rappelle que Lanzmann a construit Shoah uniquement à partir de témoignages et qu'on ne voit donc rien des lieux et des faits. Alors, Alors, il y a un parti esthétique très fort dans ce film. Est-ce que vous pensez qu'il a conduit à remettre en cause ce postulat selon lequel il était impossible de représenter cette extermination de masse?
Enfin, de fait, c'est ce que ce film a fait dire de lui, c'est-à-dire, le réalisateur, les scénaristes, donc Laszlo Nemes et Clara Royer, c'est aussi ce qu'ils ont essayé d'exposer, c'est de contourner en fait la question de l'irreprésentabilité du processus de mise à mort par un parti pris esthétique très précis, qui consiste à coller en fait au personnage principal, qui est un personnage de fiction, qui n'est pas un personnage réel, donc qui a d'ailleurs un nom lui-même emblématique puisqu'il s'appelle Saul Auslander, donc c'est l'étranger. Donc de coller à ce personnage et de ne pas filmer de manière omnisciente, comme une image qui dominerait la situation, l'ensemble du camp. Donc, à la différence de ce qui avait été beaucoup critiqué, notamment dans le film de Spielberg, La liste de Schindler, il n'y a pas de vue panoramique du camp, il n'y a pas de représentation exhaustive du processus de mise à mort. Concrètement, l'arrière-plan est flou. Il est flou la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on voit ce que voit un personnage qui ne veut pas trop regarder parce que c'est irregardable et que on imagine que pour se protéger eux-mêmes du spectacle de la mort dans lequel ils étaient complètement immergés, les prisonniers des Underkommando ne laissaient pas trop s'apesantir leur regard sur ce qu'ils avaient à voir. Bon, cela dit, donc l'arrière-plan est flou, ce qui empêche de voir des corps décharnés de manière précise, disons. On les devine, tout est là. Mais rien n'est donné à voir comme si c'était représentable de manière explicite et claire.
Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à cette absence d'explicite ? Je pense que tout va bien lorsqu'on connaît déjà les choses, lorsqu'on a déjà vu des plans de l'agencement des chambres à gaz et des camps sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Mais ce film, il est aussi destiné à un grand public qui ne connaît pas les lieux,
C'est une vraie question et qui est assez difficile à envisager dans la mesure où, quand on parle du film, les gens qui en parlent en général sont des gens qui sont eux-mêmes suffisamment éclairés, disons, sur la question pour pouvoir reconnaître, en fait, dans ce film, ce qu'il ne montre pas complètement. De fait, d'ailleurs, le film a été accompagné d'un livret pédagogique qui a été en partie fait avec la collaboration du Mémorial de la Shoah. Donc, il y a un discours d'accompagnement. C'est très difficile de savoir ce que ce film a fait à des gens qui ne savaient rien. Cela dit, il a eu quand même beaucoup de succès. Il a été notamment extrêmement bien reçu en Hongrie. Donc, c'est un film qui se voit... même quand on n'a pas une vision, une connaissance extrêmement précise du processus de mise à mort. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il est il y a ce parti pris esthétique, donc objectif restreint, image carrée, arrière-plan flouté, caméra à l'épaule. On est vraiment constamment derrière la nuque du personnage ou juste devant lui. Donc il y a ce parti pris-là. Et en même temps, la reconstitution des espaces est extrêmement précise. C'est-à-dire que les scénaristes ont travaillé, qui sont tous les deux extrêmement compétents, absolument, les scénaristes ont travaillé avec une extrêmement grande précision. Et donc, on sait, le processus de mise à mort, c'est-à-dire de la rampe où arrivent les convois, aux chambres à gaz, des chambres à gaz, au four crématoire ou aux fosses quand au moment de la... Enfin, en 1944, les crématoires ont été saturés et donc il y a eu des exécutions directement dans des fosses qui avaient été creusées par les prisonniers. Tout ça est parfaitement documenté. Voilà. Donc, cette tension entre une documentation extrêmement précise et le souci de ne pas trop tout montrer explicitement parce qu'on ne peut pas représenter, c'est ça qui a fait, je crois... Notamment que Lanzmann a dit que ce film réglait en partie, par ses parties préesthétiques, la question de la représentation. Après, la question est de savoir si le fait de garder un arrière-plan flou est une forme de non-représentation. Je ne le crois pas. Voilà. Je ne le crois pas parce que, d'abord, il y a des personnages, il y a des éclairages, et surtout, il y a une bande-son qui, elle, est, je dirais, aussi précise que l'arrière-plan est flou.
Oui, qui est très explicite. Voilà. Hein.
Qui est très explicite avec des hurlements. La bande-son est par ailleurs très intéressante. Elle est très sophistiquée. Et elle est notamment très intéressante du point de vue de l'idiome babélien du camp. C'est-à-dire qu'on entend de l'allemand, du yiddish, du hongrois, du polonais, du français parfois. Donc on est dans cette espèce de murmure polyglotte du camp. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose de très réussi de ce point de vue-là. En même temps, la bande-son fait entendre tout ce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, cette tension entre ce qu'on ne voit pas clairement et ce qu'on entend extrêmement, pour le coup, précisément, produit de la représentation. Et par ailleurs, on est quand même au cinéma. C'est-à-dire que le fait de ne pas représenter, de garder du flou, ne contourne pas le fait qu'on fabrique des images de cinéma.
Voilà. Et précisément ces images, est-ce qu'elles ne comportent pas le risque d'effacer, de recouvrir les quelques images que l'on a de ces chambres de la mort. Hein, je pense là aux 4 photos qui ont été prises de manière évidemment dérobée par des membres des Sonderkommando, je crois en 1944. Des photos qui ont eu valeur de preuve, mais qui se sont aussi imposées comme images iconiques de la mise à mort. Les 4 photos, c'est assez peu. Mais voilà, est-ce que le film ne va pas prendre le dessus sur ces représentations réelles de l'époque.
Ça pose un problème de réception. Dans la mesure où, dans ce film, il y a un passage qui est consacré à ces photos et qui essaie de reconstituer les conditions dans lesquelles ces photos ont été prises, puisque le personnage se retrouve pris dans l'intrigue, donc on est toujours dans la fiction, en contact avec un autre prisonnier qui, lui, a un appareil de photo, et le réalisateur a essayé d'imaginer, de reconstituer, au fond, les conditions dans lesquelles ces photos avaient pu être prises. Alors, c'est très intéressant si on connaît l'existence de ces photos, qui certes sont connues et plus que connues, mais dont on ne connaît pas forcément exactement l'histoire, et tout le monde n'est pas un lecteur du livre magnifique de Didier Huberman là-dessus, qui s'appelle « Images malgré tout ». Donc, on peut très bien regarder le film en prenant, et alors là on rentre dans le problème de la fiction, en prenant cette scène où des photos sont peut-être prises, mais les Allemands arrivent, il faut cacher l'appareil, etc., on peut très bien prendre cette scène comme une scène de fiction. Voilà. Mais on peut aussi comprendre qu'il s'agit d'une tentative de restituer ce qui, en fait, est à l'origine du film, c'est-à-dire ces quatre images qui sont les 4 images d'Auschwitz.
Ouais, voilà.
Donc là, il y a une tension, en fait. Et quand je dis que c'est un problème de réception, c'est que si le spectateur est parfaitement au courant, je pense qu'il peut tout à fait apprécier
cette référence.
Voilà, à la fois la référence et le geste cinématographique qui consiste à essayer d'inscrire ces images à l'intérieur du film, mais il y a le risque aussi que la lecture fictionnelle en fait l'emporte et que, comme tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce film, eh bien, ça fasse partie d'une histoire qui est racontée ou parmi d'autres choses, voilà, un prisonnier aurait voulu, par exemple, enterrer un corps promis à la crémation et, par ailleurs, un autre aurait pris des photos.
Voilà.
Et voilà, c'est fiction contre fiction.
On touche là au problème central de ce film, je pense, c'est la question de la limite entre, de la délimitation entre ce qui relève vraiment de la fiction et ce qui relève de la vérité historique. Vous l'avez dit, et on l'a compris à vous écouter, un souci réel de la part du réalisateur et de sa scénariste de documenter, d'ancrer dans la documentation la plus précise possible ce film. Alors, vous avez fait référence à la prise de photos. Sont également mentionnés ces fameux manuscrits qu'on a retrouvés sous la cendre après la découverte des camps. Donc, manuscrits écrits par quelques membres des Sonderkommando. Ce qui brouille encore davantage la lisibilité de ce récit, c'est le fait que quasiment tous les personnages de premier plan du film sont des personnes qui ont existé. Il y a les leaders de la résistance de la révolte d'octobre 1944, et le seul personnage qui est totalement fictif, et on va voir que la fiction qui lui est associée est une fiction qui pose problème, eh bien, la limite entre eux, la fiction et la vérité historique n'apparaît pas. Alors, est-ce que ça pose problème?
C'est-à-dire, c'est le propre de n'importe quel roman ou fiction historique au cinéma. C'est-à-dire le fait de mélanger un personnage de fiction, des éléments de fiction, avec un arrière-plan, pour le coup, sans jeu de mots avec l'histoire de l'arrière-plan flou, avec un arrière-plan qui est un arrière-plan historique. C'est-à-dire que tous les romans d'Alexandre Dumas sont construits sur ce principe. On a des personnages fictifs et ils évoluent dans un univers qui est un univers référentiel réel, la cour de France, n'importe quoi. Bon, là, il se trouve que l'univers de référence, si on peut dire, c'est le camp d'Auschwitz-Birkenau. Bon, donc on a un personnage de fiction qui, comme dans tout bon, je dirais, roman, bon ou mauvais d'ailleurs, roman ou film historique, croise des personnages ayant existé. Alors, au fond, quand il s'agit de la Dame de Montsoreau, de la Reine Margot ou des Trois Mousquetaires, le fait que les personnages secondaires ou de premier plan aient existé, que ce soit le cardinal Mazarin ou le cardinal de Richelieu ou Louis XIII, bon, d'une part, leur existence ne pose pas véritablement question, et en plus, les choses sont suffisamment lointaines et désactivées pour que la question de la cohabitation sur scène, on peut dire, d'un personnage de fiction et d'un personnage de l'histoire réelle ne pose pas véritablement problème. Il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, en tout cas moi comme historienne, qui me gêne, qui est problématique dans ce film, c'est la présence du personnage, notamment de Zalman Gradovski, qui est donc l'auteur du plus long des manuscrits retrouvés sous la cendre des Sonderkommando, qui a écrit un texte qui est un texte fondamental, magnifique par ailleurs, terrible, difficile à lire, mais fondamental à transmettre.
Qui a été réédité
plusieurs fois. Bon, il y a un volume en particulier, donc ce livre de poche qui s'appelle Les Voix sous la cendre, où il y a une partie des manuscrits de Gradovski, mais ils ont aussi été édités à part, notamment aux éditions Kimé. Donc, il y a ce personnage est là. Et il est en relation conflictuelle avec Saul, qui, lui, veut enterrer son corps. Et donc, il y a une concurrence, dans la fiction, évidemment, pour savoir où on va enterrer le corps. Et Gradovski, à un moment donné, qui d'ailleurs n'est pas du tout appelé par son nom, qui apparaît là comme un de ses anonymes, lui dit « Non, ça, c'est ma place ». Et on comprend que c'est l'endroit où lui enterre ses manuscrits. Donc, il y a une concurrence dans la fiction, entre un personnage de fiction et un personnage réel, avec un risque, à mon avis, qui est de fictionnaliser Gradovski. Alors ça, autant, d'abord, c'est très difficile de considérer qu'on peut fictionnaliser le cardinal de Richelieu, et par ailleurs, c'est pas forcément dramatique du point de vue de la transmission de l'histoire de France, quoique, on pourrait considérer que d'ailleurs c'est un problème, mais autant le risque de fictionnaliser Gradovski, qui par ailleurs est l'auteur de la source qui permet de construire le film, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu les manuscrits des Sonderkommando, il n'y aurait pas le fils de Saul.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a la question problématique déjà en soi de la cohabitation entre fiction et vérité historique, surtout dans ce cadre qu'est Auschwitz-Birkenau, et que par ailleurs, la fiction qui a été imaginée pose elle-même problème. En tous les cas, c'est la façon dont moi je vois les choses. Notre héros, parce que Saul est quand même le héros de ce film, se trouve très rapidement en porte-à-faux par rapport au destin qui l'attend, mais par rapport aussi au groupe des Sonderkommando dans lequel il est destiné à travailler. Et on assiste à plusieurs dialogues entre Saul et les autres, et dans lesquels les autres, donc, qui sont non identifiés, mais pour celui, l'historien ou pour le spectateur qui sait, il s'agit donc des acteurs de la résistance ou des auteurs de ces manuscrits sous la cendre, dit « Mais tu joues avec notre vie à tous. » Et on lui dit aussi « Tu as abandonné les vivants pour les morts. » C'est le chef de la mutinerie qui lui dit ça. Et donc, il y a une vraie inversion des priorités quand même. C'est l'individuel, donc l'obsession de Saul qui l'amène à à redevenir acteur de son destin, vraiment au sens de agency, mais qui le fait partir dans une direction qui va à l'encontre de l'intérêt du groupe. Et donc, à la fois renversement, donc l'individuel prime sur le collectif, mais aussi c'est la mort qui va primer sur la vie. Et lorsque Saul essaie de sauver un homme au moment de la sélection, hein, sur la rampe, la personne qu'il sauve, c'est un homme qu'il croit être un rabbin, pour qu'il puisse donner une mort considérée comme acceptable à ce corps d'enfant. Donc moi, je vois ça vraiment comme une... il y a une inversion des priorités autour de ce personnage qui est censé être notre héros.
Georges Didier Huberman l'a écrit, et je crois qu'on peut tout à fait le suivre là-dessus. Il y a une dimension de conte, de conte inversé, de conte cruel, de kafkaïen, a-t-il écrit d'ailleurs, dans ce film. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est donc pris de cette obsession d'aller donner une sépulture à un mort promis à la crémation. D'une certaine manière, c'est son acte de résistance à lui, distinguer un mort pour le faire échapper à la mort industrielle. Bon. Le parallèle de ce point de vue-là avec l'écriture et avec la révolte, disons, armée des Undercommandos est intéressante. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce projet, qui est un projet absurde, et d'ailleurs le caractère absurde est souligné à plusieurs reprises dans le film, par les autres personnages, cette espèce de lubie invraisemblable qui consiste à aller enterrer ce mort, ce caractère absurde vient contrarier évidemment les projets, disons, de résistance des autres. Bon. Alors, c'est un conte dans la mesure où, et un conte terrible dans la mesure où ce personnage pris de sa lubie va se mettre à chercher un rabbin pour l'aider à aller ensevelir le corps comme il faut. Et il en rencontre trois. Le premier lui dit « Je veux bien dire un kaddish, mais je suis pas fou, je ne vais pas aller enterrer ce corps, on n'est pas là pour ça, on ne peut pas. Bon. » Et les deux autres qu'il croise sont probablement pas rabbins, où on n'en sait rien, où il y a une incertitude. Bon. Il n'empêche que plus tard, Saul est sauvé par le premier rabbin qui avait refusé son aide. Donc on est dans cette espèce d'univers, de conte inversé, qui est pétri par ailleurs de références bibliques. Il y a une traversée de la Vistule qui ne peut pas, avec le corps de l'enfant mort, qui ne peut pas ne pas faire penser à Moïse. Il y a des références de la tragédie grecque, puisque le geste qui consiste à vouloir ensevelir le corps, c'est vraiment le geste d'Antigone avec son frère Polynice, interdit de sépulture par Créon.
Donc là, on est hors de la tradition juive, d'une certaine manière.
Oui, alors, on est hors de la tradition juive. Alors, ça a été critiqué d'ailleurs par certains... par certains critiques qui ont dit qu'il y avait une dimension trop chrétienne dans le film. En même temps, ça peut faire aussi partie de sa lisibilité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement universel. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on devrait rester à l'intérieur de la tradition juive pour représenter, poser la question de la mort. Je veux dire, d'autant qu'il est très possible qu'une quantité de détenus eux-mêmes n'étaient pas uniquement immergés dans la culture juive au moment des événements. Donc il y a cette dimension de conte, mais cette dimension de conte, elle vient flouter pour le coup les références à des actions réelles des personnages qui sont d'une part donc ceux qui écrivent, le Schreiber du commando, Zalman Gradovski, et puis l'organisation de la révolte d'octobre 44 qui est filmée. Hein, qui est représentée, et à l'intérieur de laquelle Saul vient se glisser, si on peut dire, en la mettant en danger à cause de sa lubie. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'incertain dans ce film qu'on peut considérer comme intéressant et en même temps qui, moi, m'inquiète un petit peu dans la mesure où... ce qui m'inquiète véritablement, c'est le fait que la source, c'est-à-dire ces écrits des Undercommando, ne soit pas montrée comme source. Et je pense que il y avait possibilité, tout en conservant la fiction, de montrer quelque chose de ce côté-là. Je pense effectivement que il est absurde d'interdire la fiction sur les camps. De toute façon, ce type d'interdit est fait pour être contourné, dépassé. C'est une fiction qui est extrêmement pensée, qui est extrêmement réflexive. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a bien été accueillie. Mais je crois qu'il y a un problème là du point de vue du rapport de la transmission de ce qui nous reste et qui doit être montré.
Merci beaucoup Judith Lioncamp. En vous écoutant, on a compris à la fois toute la richesse de ce film, hein, l'intérêt de ses partis pris esthétiques et aussi les risques de brouillage mémoriel et historique que ce film pose. Merci beaucoup Judith Lioncamp.
Merci Pauline.
C'était Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.